C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Qu'en dire de plus sur ce féminicide? Une femme de 70 ans qui faisait ses premiers pas vers une vie meilleure, plus de liberté, et qui a été assassinée par un conjoint qui n'acceptait pas cette rupture. Je lisais hier, parmi les témoignages, des gens qui disaient qu'il l'avait menacée à plusieurs reprises et qu'il jouait dans un premier temps l'arme du chantage en disant « je vais mourir avant toi », puis finalement, il s'est comme ajusté en disant « ben non, je pense que c'est toi qui vas partir la première ». Et on peut facilement s'imaginer comment elle a vécu cette pression-là, cette vie d'enfer, cette pression, puis d'avoir le courage de dire « là, ça suffit et je vais entamer les procédures de divorce ». Je rappelle, 5 cas de féminicide depuis le début de l'année, c'est énorme, c'est énorme. Puis pendant ce temps-là, là, on discute de combien ça coûte une porte dans une résidence qui accueille des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Et puis il y a cette tragédie, ces 3 motoneigistes qui ont perdu la vie en Gaspésie. On a eu l'identité, ça a été confirmé. Joël Crête, 35 ans de Coaticook, Nicolas Vanasse, 30 ans aussi de Coaticook, et Brian Forgue-Morissette, 33 ans de Saint-Denis de Brampton. Il y aura une enquête. Mais d'abord, ils étaient 4. Il y en a 3 qui se sont plus avancés, donc, avec leur motoneige. Il y en a un qui filmait tout ça. Et puis, à un moment donné, il y a eu, à la suite d'un mouvement, le déclenchement d'une avalanche. Bon, les experts qui ont regardé ça, puis il faut attendre là, des analyses un peu plus poussées, c'est ce qu'on appelle des snowbikes. Et les snowbikes, d'abord, c'est hors sentier. Ça n'a pas été vérifié. Et est-ce qu'ils avaient la formation pour se promener là? Il semble que non. Et quand vous regardez l'état des lieux, il y a des couches épaisses de neige, des couches plus minces, et souvent, ça peut sembler correct, et ça ne l'est pas. Et puis malheureusement, ils ont été emportés par cette avalanche. On aura l'occasion d'y revenir aussi plus tard dans l'émission. Puis beaucoup de gens qui témoignent sur les réseaux sociaux. Je voyais le titre ce matin là dans la presse, « Nous avons perdu 3 tripeux ». C'est vraiment des tripeux, des gars qui sont allés à Chic-Choc pour un peu, je dirais, une aventure entre gars. Et malheureusement, ça se termine de cette façon très triste. Pour ce qui est du pont de Baltimore, d'abord, on a localisé dans l'eau 2 des travailleurs qui ont perdu la vie. Il en reste quand même 4 à essayer de trouver. On pense que ça va être plus compliqué parce que les corps seraient coincés dans des débris d'acier et de béton également. Mais donc, ces 2 travailleurs, on les a trouvés dans un camion d'une compagnie de construction qui est tombé avec le pont. Première chose qu'on peut dire ce matin, à peu près 25 pieds de profondeur là dans l'eau. L'autre chose, on a pu remonter un peu le scénario de cette collision. Et c'est ce qu'on disait hier, c'est comme un blackout, c'est une perte rapide de toute la puissance et l'incapacité de remettre en fonction le système de propulsion. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a lancé des alarmes à répétition, ce qui a permis, je le disais hier matin, de bloquer l'accès au pont et de limiter le nombre de blessés et de personnes qui auraient été tuées. Imaginez, là, s'il y avait une circulation, même si c'était la nuit, ce que ça aurait pu vouloir dire comme bilan tragique. Donc, au moins, il y a cet aspect-là. L'équipage était présent. Le pilote qui est nommé pour permettre à ce bateau, ce porte-conteneur, de sillonner les eaux dans cette région très précise du port de Baltimore, ça prend de l'expérience, c'est pour ça qu'on a ces pilotes, a même tenté donc de faire jeter l'ancre. On a tout fait pour éviter la dérive et malheureusement, on a frappé la structure. C'est pas la première fois que ce pont est frappé par un bateau. C'est arrivé il y a plusieurs années. Les dégâts avaient été évidemment moins importants. Et là, on se dit, mais comment ça se fait que c'est à ce point fragile? Et je rassure évidemment les gens ici, parce qu'on a eu de différentes sources la confirmation que les piliers de nos ponts, Jacques Cartier, La Violette, on peut tous les nommer, là, La Porte, ce sont des structures quand même qui ont été bien conçues, ça a été bien construit. Puis dans le cas du pont La Violette, on a quand même procédé il y a plusieurs années à des opérations pour rendre ça encore plus sécuritaire. Maintenant, parlons de cette présentation hier de ce nouveau concept qui s'appelle l'union parentale. C'est le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, qui sera d'ailleurs avec nous ce matin, qui a présenté ça. C'est une réforme du droit de la famille. Alors, je sais que beaucoup de gens se demandaient jusqu'où irait le gouvernement avec cette question-là. Et hier, le mantra, c'était « l'État ne veut pas marier les gens de force ». L'État veut s'assurer d'une forme d'équité entre les partenaires de vie quand il y a des enfants. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans le projet de loi? D'abord, ça s'applique à des conjoints qui ont un enfant et qui auront donc un enfant après le mois de juin 2025. Donc, ça veut dire qu'il y a une période où la loi ne s'applique pas. Aucun changement pour les conjoints de fait actuels, avec ou sans enfant. Et là, il y a des termes à définir, mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un conjoint de fait? Maître Scheer nous a envoyé quelques éléments de réflexion dans la journée d'hier. Ce sont deux personnes qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple, sans égard à la durée de leur vie commune. Sont présumés faire vie commune les personnes qui cohabitent et qui sont les pères et mères ou les parents d'un même enfant. Et là, on établit le patrimoine. Quel est le patrimoine de ces deux personnes conjoints de fait qui ont un enfant? La résidence familiale, les meubles et voitures. Par contre, on peut y renoncer, partiellement ou en totalité, par un acte notarié. Donc, si vous êtes en couple, ça ne tient pas compte des biens acquis avant d'être conjoint de fait. Mais ça veut dire que vous pourriez convenir d'une forme différente du partage, de renoncer à ce que la loi prévoit. Et ça, c'est quand même un élément important. Et il y a toute la question de la fameuse pension alimentaire, puis on veut assurer qu'il y ait une protection pour ce qui est de la résidence familiale. J'aurai l'occasion d'en reparler avec le ministre ce matin. Pierre-Yves va décortiquer ça. On ne touche pas les injustices fiscales qui sont nombreuses. Hier, vous avez vraiment rempli ma boîte de courriel avec toutes sortes d'expériences, de témoignages de gens qui comprennent pas pourquoi l'ex vit avec quelqu'un de très riche, pourquoi moi je continue à payer, pourquoi le calcul est différent pour les allocations pour enfants. Donc, on va vous en reparler un peu plus tard ce matin. Parlons de la crise du logement. Et hier, je dois vous dire, je sais pas si c'est une coïncidence, sans doute, là, mais à Ottawa, on nous annonce un investissement pour établir théoriquement une charte des droits des locataires et un registre national des loyers avec un bail pan-canadien. En quoi ça va créer plus de logements? Non seulement c'est une autre ingérence dans un champ de compétences provinciales, donc pour le Québec est aux barricades, personne n'a vu venir ça. Mais qu'est-ce que ça va donner? Entre-temps, la mairesse de Montréal, elle nous parle d'un registre des loyers, mais qui sera opéré par un organisme qui s'appelle Vivre en Ville, à qui on va donner de l'argent. C'était pas l'engagement qui avait été pris par la Ville. Donc, le registre des loyers, c'est pourquoi? C'est de savoir quels sont les montants payés dans les dernières années par les locataires pour éviter des formes d'abus. Puis, Mme Plante, qui sera avec nous, a annoncé également des investissements pour ce qui est des inspections de bâtiments qui seraient potentiellement dangereux. Mais ce matin, le portrait là, du logement à Montréal est le suivant. C'est moins 35 % de mise en chantier d'appartements quand on regarde là sur une base d'un an et quand on se compare avec les autres villes canadiennes. Ça va mieux dans toutes les villes canadiennes, sauf à Montréal. C'est énorme, là. Fait qu'on a beau faire des sparages, là, puis annoncer des registres, puis ça fait partie des enjeux. Mais quelles sont les mesures que les élus vont prendre pour construire du logement? Je sais qu'on a fait sauter des dispositions pour accélérer les procédures. Entre-temps, les patrons d'entreprises, dans un sondage, disent « Nous sommes inquiets de la crise du logement. » On se demande « Qu'est-ce qui se passe avec ça? » Et ça pose des enjeux pour attirer de la main-d'œuvre. Montréal s'est vidé dans les dernières années de gens qui sont allés s'installer ailleurs, puis des gens qui sont ailleurs qui sont pas intéressés à venir à Montréal. Ce qui fait que la population de Montréal se maintient ou augmente, c'est l'immigration qui est concentrée ici, sur l'île de Montréal. Pour ce qui est des bureaux au centre-ville, les derniers chiffres que je voyais ce matin dans la presse là, sont assez inquiétants. Je ne dis pas que ça ne va pas se stabiliser un jour, mais c'est pratiquement 20 % des stocks de bureaux qui sont inoccupés. Donc, la disponibilité des bureaux, là, ça a comme fondu. C'est-à-dire, au contraire, c'est la disponibilité est de plus en plus présente. Et là, les propriétaires là, se disent que les gens ont besoin de moins d'espace, de télétravail, et ça représente l'équivalent, c'est l'image est forte, là, de 21 tours de bureaux vides à Montréal. C'est énorme. C'est énorme. Puis entre-temps, les chiffres concernant la population, avec le ministre Mark Miller qui commence à vouloir un peu revoir les données puis mettre le frein sur l'immigration, notamment pour ce qui est des travailleurs temporaires, la population a augmenté de temporaire là, de 2,7 millions au Canada dans la dernière année, selon les chiffres de Statistique Canada. Puis au total, là, c'est 1,3 million de Canadiens de plus. Alors, vous voyez, là, crise du logement, pénurie de main-d'œuvre, puis en même temps, un processus de construction de logements qui ne lève pas. Puis le nombre d'employés, pas d'employés, mais je dirais de promoteurs, là, qui m'écrivent, on veut construire des logements sociaux, on veut forcer les promoteurs à réserver de l'espace, sans quoi ils payent une pénalité. Bien, la plupart, en tout cas beaucoup d'entre eux, disent « pas grave, on fait un chèque ». Des logements abordables, ça nous intéresse pas, ou des logements sociaux, ça nous intéresse pas. Il peut y avoir des projets, mais pas ça qu'on veut. On veut bâtir probablement des unités beaucoup plus payantes, puis des unités qui vont accueillir des couples, des retraités, mais des familles à Montréal là, qui ont besoin d'un appartement, d'un logement, famille de quatre, par exemple, ou cinq, là, c'est à peu près introuvable. Ça n'existe pas. Écoutez, il y a une auditrice qui m'écrit, là, c'est une histoire. C'est une mère, elle a 11 enfants. Il y en a encore 6 qui sont avec elle à la maison. Elle perd son logement, puis elle doit se trouver une autre place. Comment voulez-vous qu'elle arrive, là? Puis c'est pas du monde riche. Je pense qu'elle est monoparentale. Alors, ces gens-là quittent Montréal à un moment donné parce que c'est pas possible de trouver un endroit pour vivre. Oui, juste un petit mot. Ce matin, le Journal de Montréal revient sur le cas de l'ex-président du comité exécutif, Dominique Olivier, sur ses dépenses au restaurant alors qu'elle était présidente de l'Office de consultation publique de Montréal. On avait déjà eu la liste, là. D'ailleurs, il paraît qu'elle a remboursé la facture pour les huîtres parisiennes avec intérêt, nous dit-on. Mais là, ils ont trouvé d'autres factures. Alors, des repas chez Damas, ce qui n'est pas donné, là. 158-170 $, un restaurant grec aussi pas donné dans le Vieux-Montréal. Disons qu'elle sait choisir et tout ça a été remboursé par l'organisme en question. Et ça s'ajoute au reste, 17 000 $, presque 18 000 là, de dépenses de fonds publics dans des restaurants entre 2016-2019. Elle s'est défendue, a poursuivi évidemment parce qu'elle a perdu sa job. Et je dis tout le temps dans ces cas-là, c'est pas le montant au final, tu sais, mais c'est l'espèce de principe d'un organisme qui, on va se le dire, est pas utile, coûte beaucoup trop cher, puis qui se donne des espèces d'allures de donneur de leçons à l'international. Nous, on va vous expliquer comment organiser vos consultations publiques. Et prenons juste la consultation sur le Mont-Royal. La conclusion, c'était, oui, ben, on peut aménager des voies pour les voitures, puis la ville a décidé autrement. Bref, c'est de l'argent gaspillé de A à Z dans ces cas-là. Puis là, on a une consultation à Québec sur le troisième lien, puis il y a des gens qui donnent leur avis 50 fois. Fait que, tu sais, toi, tu regardes ça comme contribuable, tu te dis, c'est ça, la bonne gestion des finances publiques. Parlons du réseau de la santé. Deux histoires à vous conter ce matin. Premier cas, c'est une femme médecin, originaire du Liban, qui débarque ici, au Canada, avec son mari, qui est aussi un médecin spécialiste, un pneumologue. Lui, il a un emploi qui l'attend à l'hôpital de Saint-Eustache. Pas de problème. Elle doit aller chercher l'équivalence et donc la permission du Collège des médecins pour pratiquer la médecine au Québec. Ce qu'elle fait, et elle obtient le droit de pratiquer. Arrive le moment où elle doit cogner aux portes pour se trouver à un hôpital où pratiquer médecin spécialiste en médecine interne. elle est incapable. Elle est incapable de se trouver un emploi dans un hôpital. Elle ne peut pas pratiquer. Elle est prête, parce que son mari, qui est à Saint-Eustache, ils ont deux enfants, il faut qu'elle reste dans la couronne nord. Comprenez? Elle ne peut pas aller en Abitibi, puis elle n'ira pas en Gaspésie. Alors, elle fait quoi? Puis elle doit pratiquer, sinon elle va perdre son droit de pratique. C'est dans un processus d'accréditation du Collège des médecins. Donc, en résumé, vous avez des patients qui attendent. Vous ne ferez pas croire qu'elle ne peut pas jouer un rôle comme médecin spécialiste dans un hôpital du Québec en 2024, alors que la liste d'attente est interminable, puis que les gens veulent voir des médecins et qui sont incapables de voir des médecins spécialistes. Ça, c'est pour la médecine interne. Deux médecins spécialistes, des jeunes du Québec qui sont allés faire leur perfectionnement aux États-Unis, qui ne peuvent pas non plus pratiquer. Pourquoi? Parce que dans les hôpitaux, je vais reprendre l'expression d'un de mes amis médecins, les vieux chirurgiens ont déjà pas beaucoup d'espace pour travailler, pas beaucoup de priorités opératoires, qu'ils n'ont pas envie de partager. Parce qu'ils ne sont même pas capables d'opérer avec une cadence qui serait normale. En conclusion, on fait quoi avec ces médecins-là? On les envoie au privé? Hier, on me racontait que dans certains cas, ils vont tout simplement travailler ailleurs, qu'on a un système de répartition des effectifs. Il paraît qu'on est la seule province au Canada qui a ça. Et là, ça bloque. Donc, t'as des patients qui veulent être traités, t'as des médecins qui veulent travailler, et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la bureaucratie constitue l'obstacle ou l'organisation du travail. J'ai parlé avec Dr Daisy Samar, qui est médecin interniste d'origine libanaise et qui veut tout simplement travailler ici au Québec. Pour ce qui est des stages, notamment en éducation ou encore en soins infirmiers, ben Québec a dit non à la rémunération. J'aurai pour vous ce matin une invitée, c'est une étudiante en éducation qui a envie, elle est passionnée de travailler dans l'enseignement. Mais là, on y met de la pression financière solide parce qu'elle doit prendre charge d'une classe bientôt. Et c'est vraiment la job de prof qu'elle va faire. Difficile de trouver un emploi à parallèle parce qu'il faut continuer quand même à vivre.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
On vient d'en parler avec Pierre-Yves. Québec a présenté hier sa réforme du droit de la famille qui touche les conjoints de fait, donc création de ce qu'on appelle maintenant l'union parentale avec des droits et obligations. Le ministre de la Justice du Québec est avec nous, Simon Jolin-Barrette. Monsieur Jolin-Barrette, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Beaucoup de questions des auditeurs, c'est des questions pratico-pratiques, là, voir de quelle façon ils sont touchés. La première question, ce que vous avez annoncé hier comme réforme, ça ne concerne que les conjoints de fait avec enfants.
Effectivement, qui auront des enfants après l'entrée en vigueur de la loi. Donc, tous les Québécois qui ont déjà des enfants ne sont pas visés actuellement, à moins d'avoir un nouvel enfant après l'entrée en vigueur de la loi, qui va être l'élément générateur du patrimoine d'union parentale.
Et ça, c'est juin 2025?
Juin 2025.
OK. Deuxième question. Quand vous parlez du patrimoine, c'est-à-dire la résidence familiale, meubles et voitures, si j'ai bien compris, on peut y renoncer en totalité ou en partie par un acte notarié.
Exactement. Après avoir reçu un conseil juridique d'un officier public neutre et indépendant, un notaire.
OK. Pourquoi vous gardez cette porte-là ouverte?
Parce qu'on veut respecter l'autonomie décisionnelle, l'autonomie de la volonté des Québécois. Vous savez, moi, je pense que c'est important de mettre un régime de base, un régime qui fait en sorte d'amener un filet de sécurité pour les conjoints les plus vulnérables, également pour l'intérêt de l'enfant, parce que les enfants ne décident pas de quelle façon leurs parents, quel est le type d'union maritale qu'ils ont, d'union matrimoniale. Alors, je pense que c'est important de protéger ces enfants-là, mais on permet aux gens d'en discuter entre eux, puis s'ils le souhaitent, ils peuvent déroger à ce patrimoine d'union parentale-là.
OK. Le patrimoine se calcule à partir de quel moment? À partir du moment où les conjoints sont ensemble ou à partir de la naissance de l'enfant?
À partir de la naissance de l'enfant. Donc, je vous donne un exemple. supposons qu'à la naissance de l'enfant, vous, vous étiez déjà propriétaire unique de votre maison, puis la maison, vous l'avez achetée 100 000 $ puis au moment de la naissance de l'enfant, vous aviez remboursé 50 000 $ Donc, il reste une hypothèque de 50 000 $ C'est ce 50 000-là supplémentaire que vous allez rembourser après la naissance de l'enfant qui va être partageable à hauteur de 50 %.
OK. Expliquez-moi, en cas de rupture, ce que c'est que la protection de la résidence familiale. Je ne suis pas certain que les gens comprennent.
Ça, c'est un élément extrêmement important du projet de loi. Lorsque vous êtes marié actuellement et que vous avez des enfants, le parent qui a la garde des enfants peut se faire attribuer la maison temporairement, un droit d'usage de la maison, durant les procédures judiciaires ou durant un court laps de temps pour assurer la transition de la séparation pour les enfants, pour que ça se passe le mieux possible puis qu'ils ne soient pas déracinés. Donc, on étend cette protection-là au conjoint de fait avec enfant pour faire en sorte que le parent qui a la garde des enfants va pouvoir conserver la maison durant un court laps de temps pour faire en sorte que les enfants ne soient pas déracinés.
OK. Ça veut dire qu'on ne peut pas vendre la maison pendant cette période-là, à moins que les deux s'entendent?
Là. Exactement.
OK. L'autre chose, vous parlez, et là j'essaie de comprendre le concept là, de violence judiciaire. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Puis donnez-moi des exemples de ça.
Bien, ce que ça signifie, c'est que le juge en matière d'abus de procédure, parce que vous savez, des fois, les litiges en matière familiaux se passent pas très bien devant la cour, et il y en a qui abusent. Donc, on dit au juge, désormais, vous allez devoir tenir compte de l'historique des procédures judiciaires impliquant les ex-conjoints, le nombre, la nature, la fréquence, les conséquences de ces procédures-là, notamment sur les enfants, qui bien souvent sont pris entre les deux parents. Également, l'équilibre des forces, notamment en raison de l'existence de violences familiales, y compris de la violence conjugale. L'idée est de faire en sorte d'éviter que les tribunaux soient instrumentalisés pour de l'abus, et ça arrive en matière familiale, parfois pour des requêtes à répétition, pour des situations qui ne devraient pas se retrouver dans le tribunal, mais où on a un conjoint ou une conjointe qui abuse des recours procéduraux à l'encontre de l'autre conjoint. On le voit particulièrement lorsqu'il y avait présence de violence conjugale pour maintenir un contrôle et sur son ex-conjoint.
OK. Je vous donne là les exemples que les auditeurs me soumettent, là, que ce soit des procédures, des allégations, par exemple, de violence envers les enfants, des allégations, puis ça devient comme une forme d'aliénation parentale. Est-ce que dans votre projet de loi, il y a les dispositions pour pénaliser, puis c'est pas facile à démontrer, j'imagine, là, ceux qui utilisent une procédure de divorce parce qu'ils sont blessés, frustrés pour régler leur compte?
Mais en quelque sorte, oui, parce que l'abus de procédure, la violence judiciaire qu'on vient justement encadrer, mais en fait, on vient donner plus de pouvoir au juge. C'est justement l'objectif, qu'il n'y ait pas multiplication des procédures et on vient décourager ça en mettant dans la loi obligatoirement que lorsque le juge constate à lumière du dossier qu'il y a abus de procédure en matière familiale, il va devoir condamner la partie qui a initié la demande aux dommages et intérêts, notamment pour payer les frais d'avocat de l'autre partie. Donc, c'est important de ne pas laisser cours au comportement inapproprié devant les cours avec la multiplication. Un dossier en matière familiale là, ne devrait pas s'étirer. Puis ce qu'on oublie souvent, parfois certains parents, c'est que c'est les enfants qui subissent les contre-coups de ça. Donc, on veut limiter ça, puis on veut responsabiliser les parties, puis on donne les outils aux juges, au tribunal pour agir.
Là, on arrive dans la partie plus délicate qui n'est pas directement dans votre cours, là, c'est-à-dire toute la fiscalité puis les règles qui existent. Par exemple, là, je vous donne le cas classique des conjoints de fait qui décident de se marier pour avoir la pension. Est-ce qu'ils vont être encore obligés de le faire?
La pension du nouveau conjoint, la pension de retraite?
Oui, la pension de retraite, par exemple. Moi, j'ai vu là, des députés là, se marier à dernière... Pauline Julien et Gérald Godin se sont mariés pour qu'elles puissent toucher la pension de M. Godin en cas de décès. Est-ce que ça va être encore nécessaire?
Ben, en fait, ça, c'est des régimes de retraite qui sont de nature privée et la majorité des régimes de retraite, lorsque vous êtes conjoint de fait depuis un certain temps, et que votre conjoint de fait est assimilé à un conjoint marital après un certain nombre d'années, donc il bénéficie du régime de retraite, un peu comme la Régie des rentes du Québec. Ça, c'est un régime qui est séparé. Le projet de loi ne touche pas à ça, donc la référence à laquelle vous faites sur monsieur, madame Julien, puis monsieur Godin, c'est un exemple aujourd'hui qui ne s'appliquerait plus. Ce qui est important avec le régime que nous mettons en place, c'est le fait que les biens qui sont inclus dans le patrimoine de l'union conjugale, c'est très simple. C'est la maison, les automobiles, ainsi que les meubles de la résidence. Les conjoints pourront s'en exclure en allant chez le notaire, mais on ne touche pas au régime de retraite et au REER dans le cadre du régime.
OK. Encore là, c'est une question de fiscalité, mais il y a beaucoup de frustration des gens qui se sont séparés, qui ont refait leur vie, qui, dans certains cas, disent « ben là, je paye une pension alimentaire pour à mon ex qui a refait sa vie avec de quelqu'un de très riche. On tient pas compte du fait qu'elle vit avec cette personne-là, qu'ils ont de l'argent, puis que moi, je suis obligé de payer pareil. Par contre, on additionne les revenus quand vient le moment d'accorder des allocations pour enfants. C'est comme entre votre loi qui veut donner une reconnaissance au conjoint de fait et à l'union parentale, la fiscalité ne suit pas.
Vous avez raison, puis on en est très conscient. Puis hier, j'écoutais M. McSween, puis j'étais d'accord avec lui. On avait déjà abordé la question, puis on est en train de le faire avec le ministre des Finances, mon collègue. Les équipes travaillent ensemble présentement. Pourquoi est-ce que c'est pas dans le projet de loi? C'est parce que le projet de loi, il était prêt sur le volet du droit privé et sur la protection des enfants. Alors moi, ma priorité, c'était de sortir ça le plus rapidement possible pour venir couvrir les conjoints vulnérables et les enfants. Mais le chantier de la fiscalité, c'est quelque chose également qui se travaille en parallèle. Et c'est effectivement vrai que, supposons, une femme qui reçoit des allocations familiales, qui a un nouveau conjoint, se retrouve pénalisée par rapport aux allocations familiales parce que le revenu de son nouveau conjoint est calculé dans le revenu familial. Mais le nouveau conjoint peut n'assumer absolument rien par rapport aux enfants du premier litige. Alors ça, il faut se poser la question aussi, pourquoi est-ce que madame est pénalisée dans ce cas-là? Parce que les dépenses pour les enfants demeurent les mêmes. Comme vous l'avez dit également, la pension alimentaire ne tient pas compte des revenus du nouveau conjoint. Alors, c'est une question fiscale qui est complexe. Alors oui, ça mérite l'attention, puis c'est ce qu'on fait présentement. Mais dans le cadre de la réforme que j'ai déposée, on n'y touche pas parce qu'on n'était pas prêt sur ce chantier-là.
Vous savez, tout ce volet du droit de la famille puis de la reconnaissance des nouvelles façons que les gens ont déterminées pour vivre en couple, ça a pris, le grosso modo, 9-10 ans. Ça est passé entre les mains de vos prédécesseurs et il y avait comme une réticence, je sais pas trop pourquoi, mais une crainte d'aller de l'avant. Là, vous me dites, la fiscalité, on regarde ça. Est-ce que ça va prendre autant de temps à adapter la fiscalité à cette réalité que ça a pris le temps de modifier le code pour le droit de la famille?
Écoutez, je ne peux pas vous parler pour l'avenir, M. Arcand, mais moi, il y a une chose qui est sûre. Moi, je suis arrivé à la justice en juin 2020, puis c'est mon troisième projet de loi en matière de droit de la famille. On en a déposé un en 2021, 2022, qui est adopté en 2023, puis là, on dépose celui-là. Alors, on agit.
C'est quoi le prochain volet en droit de la famille?
Ben écoutez, là, ça fait pas mal le tour du droit de la famille, de la réforme qui est attendue en lien avec le rapport consultatif du droit de la famille, mais très certainement en matière de fiscalité, il y a des ajustements à apporter.
OK, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous, M. Arcand. Bonne journée.
Simon Jolin Barrette est le ministre de la Justice du Québec.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, on va parler d'habitation. On a vu à Ottawa, à Montréal, on fait des annonces sur la charte des droits des locataires, sur des registres. Mais on va regarder terrain, là. Qu'est-ce qui se passe au Canada? Qu'est-ce qui se passe à Montréal? Est-ce qu'on construit ou pas des logements? Francis Cortellino est avec nous, économiste à la Société canadienne d'hypothèques et de logements. Monsieur Cortellino, bonjour.
Bonjour.
Peut-être d'abord nous faire le portrait des mises en chantier à Montréal là, depuis à peu près un an.
Oui, donc on a fait dans notre rapport le regard des 6 plus gros marchés du pays, dont le Grand Montréal, et dont le Grand Montréal était en dernier de classe en 2023 pour les mises en chantier. Pour vous donner une petite idée, en 2021, on était monté jusqu'à 30 000 nouveaux logements, qui était quand même une bonne année pour le Grand Montréal. Mais en 2023, on est tombé à 15 000, la moitié moins, donc un creux depuis une bonne vingtaine d'années. Et ça se démarque du reste du pays. Par exemple, dans les régions d'Alberta, l'économie va bien, on a construit beaucoup de logements. Toronto, Vancouver, on fait des grosses sortes de condos, là, avec des projets planifiés sur 5-6 ans. Donc, planifiés quand les conditions économiques étaient meilleures, les taux d'intérêt étaient plus bas. Donc, ça explique peut-être pourquoi ça a mieux été là-bas. Mais où j'ai peut-être plus une inquiétude en ce moment, si on regarde les données de janvier et février pour le Grand Montréal, mon rôle présentement pour terminer l'année a aussi à 14 000 mises en chantier environ. Donc, le début d'année est très, très lent. Et ce qui est un peu inquiétant dans le contexte où on a un manque criant de logements sur le marché.
OK. Quand vous me parlez de logements, là, est-ce que c'est toutes catégories confondues, des condos, des appartements, des logements, là, est-ce que c'est vraiment là partout où il y a une baisse importante?
Oui, donc quand on parle de logement, c'est au sens large. Ça peut être de la maison familiale, des copropriétés ou des logements locatifs. Mais je dirais, depuis plusieurs années, dans le Grand Montréal, le moteur de la construction, c'est le segment locatif. Donc, c'est vraiment la construction qui domine le marché. Et c'est le segment aussi qui recule quand même beaucoup depuis que 2 ans maintenant. Les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés. C'est difficile pour les promoteurs d'avoir des projets avec des montages financiers qui se tiennent. Beaucoup des projets qui ont sorti tard dans les derniers mois, derniers trimestres, ont eu besoin de programmes, par exemple, de la CHL, là, qui favorise certains projets locatifs avec une certaine flexibilité dans le montage financier. Donc, outre ces programmes-là d'aide, là, de produits d'assurance de la CHL, ça a été très difficile même d'avoir des projets. Donc, on est vraiment dans une situation où le manque de clients de logement est très important et en même temps, c'est très difficile pour les promoteurs d'arriver avec des projets qui tiennent la route là en ce moment.
OK, mais là, les auditeurs se disent, est-ce que les matériaux au Québec sont si plus chers qu'ailleurs? Les taux d'intérêt, c'est partout pareil. Pourquoi c'est si mauvais à Montréal comme résultat?
Non, en effet, les côtés main-d'œuvre, matériaux, comme vous dites, ça s'est stabilisé, ça a même baissé dans certains cas, mais c'est assez similaire un peu partout au pays. Je crois que l'Alberta, en ce moment, bénéficie d'une économie qui va très bien. Même on a eu les dernières données de migration hier de Statistique Canada, et l'Alberta attire beaucoup, beaucoup de personnes de l'ensemble des autres provinces du pays. Donc, ça vient créer de la demande et ça fait en sorte qu'il y ait de la construction. Toronto, Vancouver, comme je vous disais, c'est peut-être un peu plus le reflet des conditions du passé. Donc, une tour à condo qui est sortie tard l'an passé à Toronto. Les préventes de condos ont eu lieu il y a peut-être 2 ans, 2 ans et demi, là, pendant la pandémie où les ventes allaient très bien. Donc, ça reflète un peu les conditions du passé. Mais je pense qu'il faut se servir de ce moment-là où les mises en chantier sont basses, c'est peut-être pour revoir un peu nos manières de fonctionner. Il y a plusieurs provinces au pays, en Ontario, Colombie-Britannique, par exemple, qui incitent fortement les municipalités à revoir un peu leur processus d'approbation, qui les incite à leur donner des objectifs en termes de construction. Et au Québec, récemment aussi, le projet de loi 31, où le gouvernement du Québec a donné le pouvoir aux villes de réduire le temps d'approbation, des fois en coupant certains référendums, comités consultatifs, le nombre de résolutions nécessaires, par exemple, au conseil d'arrondissement, pour approuver un projet. Et pour être honnête avec vous, les villes, c'est tout nouveau. Les villes ne savent pas encore quoi faire avec ce type de super pouvoir qu'elles ont, mais ça reste à voir au cours des prochains mois. Ça pourrait aider à accélérer le processus et faire en sorte que plus de mises en chantier sortent de terre un peu partout sur le territoire.
OK. De façon très claire, M. Cortellino, là, Montréal a connu une mauvaise année. C'est une chute importante des mises en chantier. Et les 2 premiers mois de l'année montrent encore une fois que ça tourne au ralenti et que ça peut même pas, on peut même pas penser couvrir le besoin de logement à Montréal.
Non, en ce moment, c'est comme vous dites, c'est très faible. J'ai parlé à quelques compagnies, nous, qui font des associations qui font du coffrage. Donc, eux sont au début du processus de construction, donc pour couler les fondations. Et souvent, eux sont un bon indicateur des mises en chantier à venir. Parce que si leur canette commande est vide en début d'année, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de projets dont on va commencer la construction dans l'année en cours. Et en 2023, leur canette commande était assez vide là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de projets. Et début 2024, leur carnet de commandes est tout ça encore relativement vite pour l'année. Donc, c'est un mauvais signal pour les prochains mois. On espère qu'en deuxième partie d'année, avec la baisse des taux d'intérêt, ça va commencer à s'activer un peu. Mais pour le moment, encore une fois, là, la baisse des mises en chantier, le nombre le fait de mises en chantier est inquiétant là, pour dans le cas du Grand Montréal.
Merci, M. Cortellino. Bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir. Francis Cortellino est économiste à la Société canadienne d'hypothèques et de logements. Maintenant avec nous, la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Madame Plante, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour. Attendez, j'ai un petit temps en jeu. Est-ce que vous m'entendez bien, M. Arcand?
Très bien, très bien.
Ah, parfait, d'accord. Oui, ben oui, j'écoutais avec attention là, votre invité juste avant. C'est bien intéressant.
Mais expliquez-moi pourquoi Montréal est dernier de classe?
Ben, dernier classe, non. Là, quand on voit dans l'article, il y a aussi d'autres villes au Canada. Mais si on se compare
Non, Madame Plante, les villes qui ont été choisies, là, M. Cortolino l'a répété, Montréal est dernier de classe. Il se fait moins de logements qu'ailleurs, c'est des baisses de 30 à 40
%. Oui. Ben oui, tout à fait. Puis quand on regarde, quand je dis que c'est intéressant, je trouvais ça pertinent de rappeler qu'effectivement, les taux d'intérêt, c'est la même chose pour tout le pays. Alors, qu'est-ce qui fait que la région métropolitaine de Montréal est dernier de classe? Ben moi, je pense qu'il y a parce qu'il faut regarder, on parlait du projet de loi 31 qui était énoncé, donc comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ces nouveaux pouvoirs pour faciliter les mises en construction. Nous, à Montréal, depuis un an, on suit à peu près une centaine de projets de très près pour des projets immobiliers, pour faciliter là, la délivrance de permis et les différents processus. Mais je voudrais quand même amener le fait, je serais curieuse de voir, j'aurais aimé ça pouvoir discuter avec votre invité pour voir est-ce qu'il y a un élément aussi au niveau des incitatifs financiers qui sont donnés par province pour soutenir le milieu de la construction. Parce qu'on sait, par exemple, qu'en Ontario puis en Colombie-Britannique, les constructeurs n'ont pas à payer la TVQ pour l'équivalent, là, la taxe provinciale sur la construction, ce qui leur donne un incitatif financier. Donc, je serais curieuse de voir s'il y a-t-il aussi des éléments, si on zoome Montréal, région métropolitaine.
Mais Mme Plante, on peut tourner en rond pendant une heure, là, mais la réalité, c'est que Montréal construit moins. C'est vrai pour 2023. Janvier et février, c'est aussi mauvais. Il n'y a rien qui indique que 2024 va être meilleur. Il y a une réalité, on ne construit pas à Montréal assez. Puis vous êtes la mairesse, puis je voudrais savoir pourquoi on construit pas à Montréal.
Ben c'est, écoutez, M. Arcan, j'ai vraiment l'impression que je vous donne un portrait très transparent là, en répondant à vos questions. J'aimerais ça aussi mentionner que vous ne l'avez pas abordé avec votre invité. Mais il y a aussi le fait, par exemple, que à Toronto, la construction de hauts taux par rapport à un milieu qui est différent à Montréal. Donc, je veux juste dire qu'il y a une complexité par rapport à ça. Je suis pas certaine de savoir exactement ce que vous voulez que je vous réponde. M. Arcan, vous rappelez que c'est quelque chose avec lequel on prend extrêmement au sérieux, sur lequel on agit.
Mais vous prenez ça au sérieux, mais il se passe rien. Je veux dire,
je suis pas d'accord avec vous.
Regarde, la réalité démographique, là, on l'a vu encore récemment, c'est que les gens qui sont de l'extérieur ne veulent plus venir à Montréal. Il y a des Montréalais qui quittent, ils vont ailleurs au Québec. Et si Montréal se maintient en termes de population, c'est à cause de l'immigration. Ça, c'est un. Deux, il y a beaucoup de promoteurs qui ne veulent plus faire affaire avec la ville de Montréal. Luc Poirier, pour ne pas le nommer. Et je pourrais vous en citer d'autres.
Mais vous nommez un promoteur immobilier.
Je pourrais vous en nommer d'autres.
Je pourrais vous en nommer d'autres aussi.
Mais ça construit pas fort, ceux avec qui vous faites affaire, là.
Vous savez, votre invité vient de vous dire là, que dans les autres provinces, il y a souvent des délivrances de permis qui ont été faites il y a plusieurs années et qui, là, qui arrivent à échéance. J'aimerais ça quand même qu'on prenne en considération qu'en 2021, en plein milieu de la crise de la COVID, c'est ici, à Montréal, qu'il y a eu le plus grand nombre de mises en chantier de tout le pays. Et c'était l'administration de Projet Montréal, c'était les mêmes règlements, c'était les mêmes règles. Donc, ce que j'essaie juste de dire, c'est que, bien que ça nous prend, et on prend ça extrêmement au sérieux, je sais pas si on va avoir la chance de parler de ce qu'on a fait comme annonce hier pour protéger les locataires, mais on agit sur tous les fronts. C'est ça notre volonté, mais je veux quand même aussi mentionner que quand vous dites, par exemple, que moins de mise en chantier, si on regarde les chiffres de 2023, bien que l'île de Montréal, il y avait moins 26 %, la région métropolitaine, c'était moins 37, puis tout le Québec, c'était moins 32. Est-ce qu'on peut aussi, et Montréal doit prendre ses responsabilités, mais est-ce qu'on peut aussi regarder d'un point de vue d'incitatif plus globaux
qui
touche l'ensemble de la province?
Quand vous me dites que vous prenez vos responsabilités, je voudrais savoir quel est le résultat quand vous prenez vos responsabilités quand on a une baisse comme ça du nombre de constructions de logements? Il n'y a pas un message? T'sais, on n'est pas pays des lutins. Là. Qu'est-ce que vous voyez dans ce message-là?
Monsieur Arcan, on vient juste votre invité vient juste de dire qu'il y a un projet de loi qui vient d'être adopté, le projet de loi 31, qui fait en sorte qu'on va avoir plus de latitude par rapport à certains règlements, à des densités, à des hauteurs, à des référendums. C'est un outil qui va pouvoir toucher toutes les municipalités. Alors, comme quoi, on va pas, les villes ne vont pas, compromettre des règlements. Maintenant qu'on a la possibilité de pouvoir l'alléger, on va prendre tout ce qui est à notre disposition.
Est-ce que vous êtes capable de me dire ce matin quels sont les trois principaux projets de construction de logements à Montréal qui ont été approuvés et dont les travaux vont commencer bientôt?
Il y a, le Molson. Il y a la tour de Radio-Can. Et là, on vient d'approuver aussi... l'îlot voyageur, on est encore loin un peu. Là, il m'en manque un. Là, je cherche rapidement, mais je pourrais vous en donner une liste avec grand plaisir. Puis dans l'arrondissement Ville-Marie, où ça se construit le plus, nos indicateurs nous montrent quand même qu'il semble... Ça semble favorable de pouvoir augmenter tranquillement. Mais je sais que là, ça fait pas votre affaire ce que je vous
réponds. Non, c'est pas une question de faire mon affaire. Moi, j'essaie de regarder la réalité. Quand je me fie aux données de la société.
Mais regarde la réalité, M. Arcand.
Ben, la réalité, c'est que encore des promoteurs qui m'écrivent, qui me disent, Montréal nous met des bâtons dans les roues. C'est compliqué. Montréal, c'est la dernière option pour venir travailler. Je l'invente pas, là.
Mais M. Arcand, moi, je viens de vous donner des chiffres qui démontrent que c'est nous qui avons eu la baisse de chantier en 2023 la moins importante par rapport à tout le Québec. Fait que je veux dire, à un moment donné, je veux bien entendre des promoteurs qui sont insatisfaits pour tel élément, et ça fait en sorte qu'on parle avec eux, on a créé une cellule facilitatrice justement pour ça. Ça donne des résultats. Allez parler avec M. Plamondon. Allez parler avec d'autres promoteurs qui, eux aussi, vont vous dire qu'il y a des améliorations marquées. Je suis pas en train de dire que tout est parfait, mais je refuse que ce soit qu'on met des bâtons dans les roues. Je peux pas accepter
cette
prérogative. Non, parce qu'en 2021, je vous le rappelle, c'était nous qui étions au pouvoir et on a eu la plus grosse mise en chantier, 56 000 unités.
La Société canadienne d'hypothèques et de logement dit que c'est la pire performance en 20 ans actuellement.
Oui, mais est-ce qu'on peut parler de la meilleure performance en 20 ans?
Ah, mais vous avez le droit de regarder le côté rose de l'affaire. Vous avez le droit
c'est
de...
C'est pas ça?
Non, mais...
Écoutez, M. Arcand, je suis désolée, là, je comprends que vous voulez que les unités sortent, puis je pense que c'est ce qu'on fait depuis qu'on est arrivé en poste. Il n'y a jamais une administration qui a investi autant pour acheter des terrains, des bâtiments, mais il y a une réalité qui existe aussi. Dans la mesure où il n'y a pas eu de financement pour, entre autres, du logement locatif social depuis 4 ans, qui est la responsabilité du gouvernement du Québec, faudrait le mettre dans la balance aussi, M. Arcand. À un moment donné, moi, je veux pas juste construire des condos puis des penthouses, je veux aussi construire du logement abordable puis du logement social. Mais ça, c'est une responsabilité des autres paliers. Est-ce qu'on peut prendre l'ensemble des données avant de dire que Montréal met des bâtons dans les roues? Moi, c'est ce que je demande, en fait.
OK, mais est-ce que vous me dites...
la complexité.
OK, vous dites, dans le fond, que Québec a pas pris ses responsabilités depuis des années.
Non, c'est pas ça que je dis.
Ben, oui.
Ce que je dis, non, c'est pas ça que je dis.
Alors, qu'est-ce que vous dites?
Logement social. Monsieur Arcand, je viens juste de vous le dire. Quand on parle, je peux pas me faire accuser de mettre des bâtons dans les roues. Alors qu'il y a 2 ans, alors que tout le reste du pays roulait à peu d'unités, Montréal a fait 156. C'est juste que j'aimerais ça qu'on puisse reconnaître qu'il y a aussi une conjoncture plus large, mais même pour ce qui est de Montréal, on utilise des nouveaux pouvoirs que Québec vient de nous donner. Tant mieux, on est content. Mais
vous venez de me dire, que Québec a négligé le logement social pendant 4 ans, non?
Ben oui, mais ça, c'est facile, c'est prouvé. Vous pouvez demander à toutes les autres villes du Québec qui vont vous dire la même chose. C'est dans les données, il n'y a pas eu d'investissement en logement social dans les derniers budgets du gouvernement du Québec. C'est pas moi qui invente ça pour dire qu'à Montréal, tout va bien. Je fais juste vous dire qu'il faudrait voir l'ensemble des éléments puis de pouvoir parler à l'ensemble de l'écosystème pour voir qu'on met des choses en place pour faciliter les mises en chantier.
OK. Là, vous avez parlé...
Oui, c'est locataire, je vous écoute.
Non, vous avez annoncé hier qu'il y aurait comme un registre par le biais de logement, là, par le biais de vivre en ville, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Donc, c'est pas un registre de la ville?
Non, c'est pas un registre de la ville. On a rencontré certaines barrières juridiques, puis on s'est dit, ben, on va, en attendant de régler ces éléments-là, on va contribuer à un outil qui fonctionne bien, bien qu'il ne soit pas obligatoire, puis nous, c'est ce qu'on souhaite. Il est très populaire, beaucoup de gens l'appliquent, l'utilisent, mais on voudrait que ce soit obligatoire à terme.
OK, mais c'est parce que ce que je comprends, c'est un acte volontaire. Il n'y a aucune obligation, ça donne une vision partielle de la réalité.
Exactement. Puis nous, ce qu'on voudrait, c'est une vision globale, puis une vision obligatoire. Et là aussi, on va continuer à faire nos représentations. On est plusieurs villes qui souhaitons que ce soit un registre national, étant donné que la crise du logement ne se limite pas à l'île de Montréal, vous le savez, là. Donc, on aimerait ça pouvoir avoir un registre national.
Est-ce que quand vous me parlez de registre national, parce que M. Trudeau aussi voudrait faire un registre national, est-ce que vous trouvez que le fédéral a à se mêler de ça ou pas?
Bon, je pense que nous, on l'a appris hier à dernière minute. Là, on n'était pas informés des éléments. Moi, je pense que le gouvernement du Québec a tout à fait c'est dans ses compétences. D'ailleurs, M. Robert, je l'ai dit hier, hein, il a dit l'habitation, c'est la compétence du gouvernement du Québec. Donc, je pense qu'ils sont tout à fait à même de pouvoir décider. Je sais que ça, ils ont fermé la porte. Ils préfèrent la clause G dans les baux. Moi, j'ai hâte de voir si ça va fonctionner. Je le souhaite ardemment parce que, dans le fond, c'est une question de transparence, hein, le registre des loyers. C'est vraiment pour permettre à des locataires de pouvoir mieux négocier, de savoir comment un logement coûtait avant eux, pourquoi qu'il y ait d'augmentation abusive et tout ça. Donc, moi, je pense que c'est très positif, mais le gouvernement du Québec est tout à fait habilité. C'est dans ses compétences, puis nous, on respecte ça.
OK. Merci, Mme Plante.
Mais ça m'a fait plaisir. Bonne journée à vous.
À vous aussi. Valérie Plante est la mairesse de Montréal.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
On va parler santé maintenant. Pourquoi? Parce que, bon, vous le savez, vous êtes peut-être sur une liste. Il y a des patients qui attendent pour être vus. Des patients qui veulent consulter, qui veulent être opérés, soignés. Et de l'autre côté, vous avez des médecins qui sont formés, qui sont compétents, qui sont reconnus par le Collège des médecins du Québec, qui malheureusement ne peuvent pas pratiquer. C'est le cas de notre invitée ce matin, Dr Daisy Samaha, qui est médecin interniste. Elle est originaire du Liban et elle aimerait beaucoup travailler au Québec. Docteur Samaha, bonjour.
Bonjour.
Peut-être me parler un peu de votre parcours. Vous êtes médecin spécialiste, votre mari est pneumologue, médecin spécialiste. Comment vous êtes arrivé au Québec d'abord?
D'abord, moi, j'ai fait mes études au Liban et j'ai fait des études spécialisées en médecine interne approfondie en maladies rares à Paris. Et puis, on est retourné au Liban, moi et mon mari, on s'est installé, on a débuté notre carrière pour 5 ans de suite. Et après, il y a eu les incidences très sinistres du Liban où on a perdu l'âme du pays. Et c'était le jour où on a compris que on n'appartient plus à ce pays. Il faut qu'on cherche ailleurs pour un meilleur avenir et un endroit où on peut appartenir, nous et nos enfants. Donc, on a choisi le Québec pour plusieurs raisons. Bon, on est des médecins francophones et on cherche les valeurs sociales et culturelles qu'on a retrouvées ici. Et c'était des réflexions qu'on a fait longtemps. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvés en tant que famille ici au Québec.
OK. Je le disais, votre mari est pneumologue. Il travaille à l'hôpital de Saint-Eustache. Vous, oui. Vous avez suivi tout le parcours qui est prévu là pour la reconnaissance de vos compétences par le Collège des médecins.
Exactement. En fait, moi, en tant que médecin étranger, pour pouvoir pratiquer la médecine ici, je suis un permis restrictif. Pour obtenir ce permis restrictif, je dois subir plusieurs conditions, dont la reconnaissance de mes diplômes au Québec que j'ai déjà faite. Ensuite, il faut passer un test. Ensuite, il faut passer un test spécifique en médecine que j'ai déjà fait. Et il reste d'être parrainé par une institution qui figure sur la liste des effectifs médicaux. Au fait, sur la liste la plus à jour, il existe 40 postes vacants en médecine interne au Québec. Et mon CV circule et j'ai fait mon devoir moi-même. Je les ai contactés à plusieurs reprises. Mais jusque-là, ça fait un an que je suis au Québec et que je n'ai pas encore malheureusement reçu une réponse positive et une promesse d'embauche.
OK. Pour être encore plus précis, vous habitez à Laval avec vos enfants, votre mari, je le disais, donc votre mari est à l'hôpital de Saint-Eustache. Vous irez pas travailler en Abitibi, vous irez pas travailler en Gaspésie, vous cherchez quoi, à une heure autour de chez vous environ, là?
Oui, oui, je cherche quelque chose qui soit logique. Je suis prête à conduire, je suis prête à faire des déplacements, mais dans les marges de la raison. Donc une heure et demie, ça me va quand même. Mais puisque j'ai deux enfants qui sont très jeunes, donc je peux pas disparaître toute la journée pour pouvoir travailler. Donc oui, l'effort, je suis prête à le faire, à me déplacer de bon gré, mais dans les limites logiques.
Et si vous n'arrivez pas à décrocher un poste, quel est l'impact sur votre droit de pratique au Québec?
Mais ça c'est une grande chose, parce qu'une des conditions que je dois subir également, c'est que dans les derniers 24 mois, avant d'être embauchée ici, il faut que j'aie pratiqué au moins 12 mois en pratique clinique. Et moi, j'ai arrêté de travailler en avril passé pour pouvoir arriver au Québec et installer ma famille et que tout le monde s'intègre bien. Alors, ça fait 12 mois presque que j'ai pas travaillé. Et maintenant, les 12 mois se terminent dans 2 jours. Ça tombe au poisson 30 avril, mais ça c'est la vérité, que dans deux jours, peut-être, il se peut que j'aurais perdu toute chance d'être médecin ici au Québec.
Pourtant, les besoins sont clairs, sont criants même, et on a de la difficulté à croire qu'on puisse lever le nez sur votre compétence et votre disponibilité dans un réseau de la santé qui prétend chercher des médecins.
Oui, c'est très, très malheureux parce que je suis vraiment passionnée de médecine. J'ai quelque chose à présenter pour la communauté, pour ma communauté actuelle. Et je suis prête à tout faire, à débuter n'importe où, à même refaire des études. Je suis prête à tout faire pour être dans le système, pour commencer, pour travailler et surtout pour ne pas perdre ma carrière. Parce que, tu sais, on a fait beaucoup d'étapes, on est passé par beaucoup d'instabilité morale, physique, psychique et tout pour être là. Je suis très fière en tant que famille et en tant que mère qu'on a pris cette décision et qu'on est là. Mais c'est avec beaucoup d'amertume que je sens que peut-être ça va être aux dépens de ma carrière. Je le ferai toujours pour ma famille, mais ça, c'est avec trop de chagrin que peut-être je ne pourrais pas être médecin ici.
Docteur Sama, merci d'avoir été avec nous. Vous gardez le contact et en espérant qu'il y a les autorités compétentes soient à l'écoute et puissent faire débloquer ce dossier. Merci beaucoup. Docteur Daisy Sama, qui est médecin interniste d'origine libanaise, elle peut pratiquer au Québec. Elle a les autorisations, mais il n'y a pas de place. C'est comme si on avait un surplus de médecins internistes et que c'était pas nécessaire qu'elle puisse travailler. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et ça découle de ce qu'on appelle du plan de répartition des effectifs. C'est un plan quinquennal. Paraît-il d'ailleurs qu'il y a juste le Québec qui fonctionne avec ce genre d'outils. Et je ne peux pas croire qu'on n'a pas besoin de ces services. Je résumerai de la façon suivante. Quand vous avez des patients qui attendent, puis qui ne voient pas de médecin, puis des médecins qui voudraient travailler, puis qui ne voient pas de patients, ça bloque à cause de quoi, vous pensez? La bureaucratie. Les règles, les procédures, les codes. Elle veut travailler, vous vous attendez, puis pendant ce temps-là, on discute des plans d'effectifs. Est-ce que plus de monde sur la couronne nord qu'avant, puis c'est sur 5 ans. C'est un genre d'outil complètement désuet et périmé. Je veux revenir sur cette tragédie qui s'est produite en Gaspésie dans les Chic-Chocs, alors qu'on a appris le décès de 3 motoneigistes, des pères de famille qui sont décédés, 3 jeunes hommes, Joël Crête, 35 ans, Nicolas Vanas, 30 ans, et Brian Forgue-Morissette, 33 ans. Ils étaient avec un 4e gars, c'était des amis partis comme ça à l'aventure, et il y a eu donc une avalanche. Jack Verrecchia est avec nous, c'est le propriétaire d'une entreprise qui guide des motoneigistes dans les Chic-Chocs depuis près de 10 ans. Monsieur Verrecchia, bonjour.
Bonjour.
Peut-être nous dire un peu là comment ça s'est produit, cette avalanche. Qu'est-ce que vous savez sur le contexte?
OK, mais dans la journée, on a eu du soleil là, avec du chaleur. Là. La neige est venue vraiment calante puis pesante. Puis c'est vraiment à pic où les gars étaient. Là, quand ça arrive comme ça, ça juste prend un gars qui bouge dans la neige pour faire la neige tomber. Puis les deux gars étaient en bas. Un gars en haut, quand il roulait son snowbike, il a déclenché la avalanche, puis toute la neige est descendue sur les deux gars qui étaient en bas dans la ligne d'avalanche.
Ça veut dire qu'ils n'ont eu aucune chance, là?
Pas du tout, mais le vrai problème, c'est qu'il n'y avait pas de chance pantoute, même s'il y avait 20 gars là. Parce que le problème ici, on pense que c'est à cause que c'est pas dans l'ouest, on n'a pas besoin de le beacon, on n'a pas besoin de le probe, pour faire chercher les gars. Quand il y a une avalanche, tu vas là, tu trouves le gars avec ton transponder là, puis après ça, tu creuses pour les sortir, tu check pas avec ton poteau, puis tu trouves exactement où, puis tu sors avec les pelles. Si t'as pas tout ce équipement là, quand les gars arrivent là de Avalanche Québec, puis les policiers, puis tout ça, ça prend trop long. Ça prend 15 minutes. Après ça, ton temps de vivre descend très 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 vite.
Mais ça se passe dans des pistes hors sentier, là. C'est pas balisé, il y a pas...
Non, pas en tout, il n'y a pas balisé, mais tu peux arriver là facilement. Ça juste prend un place épique, ça n'a pas besoin d'être gros. Puis quand ça déclenche, ça déclenche.
Avec votre expérience, quand vous regardez ça, là, compte tenu de la météo, compte tenu là, de la qualité de la neige qui était peut-être épaisse, moins à certains endroits... Est-ce qu'il aurait fallu que ces gars-là renoncent à l'expédition? Auraient dû bouger différemment?
Oui, moi je pense que si les gars ils ont checké, puis personne ne fait ça, mais si les gars ils ont checké sur Avalanche Québec, Avalanche Québec disait qu'il y avait une bonne chance pour avoir des avalanches. Oui, ils donnent le météo dans le parc national, puis ça, mais même dehors le parc national où on ride les motoneigistes, s'ils disent qu'ils vont avoir une chance d'avalanche dans le parc, c'est sûr qu'ils vont avoir dehors le parc aussi, mais j'en suis sûr, souvent, les gars, ils checkent ça jamais. Là, dans leur tête, on pense jamais, parce que encore, on n'est pas dans l'Ouest.
L'autre question, est-ce que c'est vrai que c'est de plus en plus populaire, qu'il y a de plus en plus de gens en motoneige, en snowbike, qui vont dans ces territoires-là?
Oui. À chaque année, on a plus de monde qui fait du hors-piste au lieu de faire la piste. Mais on n'a pas changé nos idées. Dans les dernières 5 années, ça a grandi double. Là, il y en a beaucoup plus de monde dans la bois que sur les trails de motoneige. Mais il y a personne dans la bois qui check à rien du tout. Là, si tout le monde prend les cours puis il y a tout l'équipement, on serait beaucoup plus fort de sauver le monde au lieu de juste on attend le monde pour nous aider.
Justement, si vous aviez à donner des conseils aux gens qui vous écoutent ce matin, qui rêvent à ce genre d'expédition, d'aventure, qu'est-ce que vous pourriez leur dire?
Moi, je vais dire à tout le monde, achète un pelle, un probe, puis un beacon. Trouve comment les marcher ou, encore plus mieux, prends le cours de avalanche puis achète ton équipement. Parce que quand tu es dans la bois et tu as tout ça, tu peux aider nous. Si tu n'as pas tout ça, tu es juste là pour regarder.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, monsieur.
Merci.
Au revoir, Jack Verrecchia, qui est un spécialiste donc de cette zone dans les chic-chocs depuis près maintenant de 10 ans.
C'est 23.